et bienvenue dans Émidiction, l'émission qui rend addict. Aujourd'hui, nous abordons un thème crucial et pourtant souvent méconnu, les addictions sans substance. Lorsque l'on parle d'addiction, on pense instinctivement à l'alcool, au tabac ou aux drogues. Mais qu'en est-il de ces comportements du quotidien qui peuvent devenir tout aussi envahissants ? Jeux vidéo, réseaux sociaux, sexe, sport excessif, voire travail à outrance. Ces dépendances dites comportementales sont parfois invisibles, mais peuvent avoir des conséquences profondes sur nos vies. Qu'est-ce qui les déclenche ? Comment les reconnaître et surtout, comment s'en libérer ? Nous en parlerons aujourd'hui avec un expert, Olivier Estegoy. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous avez été hypnothérapeute pendant 15 ans avant de moderniser votre compréhension au psychisme et de l'accompagnement. Vous ne parlez pas d'hypnose mais d'émotique. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre ces deux termes ?
Oui, effectivement, nous avons conservé de l'hypnose tout l'aspect technique, l'aspect pratique qui permet de faire varier ce que j'appelle les niveaux d'attention d'une personne, la manière dont elle va placer son attention, un peu à la manière d'un illusionniste qui parfois vous invite à déplacer votre attention vers sa main pendant qu'il manipule un objet avec l'autre. Et nous avons surtout pu ajouter les ingrédients de ce qui nous semble essentiel dans l'accompagnement. Et donc surtout des éléments théoriques qui concernent les émotions, la manière dont les personnes vivent leurs relations et les liens qui existent entre ces émotions et les comportements, et également tout ce qui est de l'ordre du conscient et de l'inconscient en termes d'alignement et de cohésion.
Au fil des années, on entend de plus en plus parler de la dopamine, mais cette molécule et tous les effets qu'elle engendre dans nos vies restent encore flous pour le grand public. Claire Ginalac, psychologue clinicienne, nous explique ce qu'est la dopamine au micro de Théo Gassier.
La dopamine, du coup, c'est un neurotransmetteur qui se situe donc au niveau de notre cerveau. Et la dopamine, elle a un gros impact sur notre circuit de récompense, du coup. Donc, il y a deux aires de notre cerveau qui peuvent libérer un petit peu la dopamine. On a les noyaux accumbens, du coup. Donc là, eux, ils ont plutôt une fonction dans la notion de plaisir. Et ensuite, on a l'aire tegmentale ventrale, où là, ça va être un petit peu plus tout ce qui va jouer sur la régulation émotionnelle. Donc la dopamine, elle va venir jouer sur ces deux aires. Et la dopamine, elle a un fort impact sur ce qu'on appelle le circuit de récompense. Donc le circuit de récompense, il va se mettre en route quand on fait une activité qui nous procure du plaisir. Donc ça va être soit une activité de survie, soit une activité de bien-être. Donc ça peut être simplement manger et boire, ou alors des activités sociales, valorisantes. Voilà, donc là ça va faire du sport.
La question que je me pose et qui va être un axe principal de cette émission, avez-vous souvent des cas d'addiction au sexe dans votre cabinet ?
Alors effectivement, le cas d'addiction au sexe reste assez rare. Il concerne principalement les jeunes hommes. Il y a évidemment tous les aspects autour de la pornographie qui peuvent entrer en ligne de compte. On sait que ce sont des comportements qui se sont énormément développés depuis l'avènement d'Internet et des smartphones. Donc ces notions-là aujourd'hui prennent une dimension différente. Je crois par contre qu'effectivement la sexualité, l'hypersexualité d'après certains, est une constante dans le comportement humain. Donc effectivement, il est très récent d'utiliser le terme d'addiction en ce qui concerne le sexe, mais par contre, évoquer la sexualité au cours d'une consultation de thérapie, oui, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, puisque la manière dont nous vivons notre sexualité évoque et indique beaucoup sur comment on se sent. Une personne qui, effectivement, indique une forme de sexualité compulsive, en quelque sorte, eh bien, ça nous donne beaucoup d'informations sur la manière dont elle se perçoit, la manière dont elle exulte ou se défoule par ce biais-là.
C'est ce dont va nous parler Sophie Dessault, psychologue et sexologue. Les effets, les conséquences de la dopamine dans les relations sexuelles. Une interview de Joé Clémenté.
Alors oui, la dopamine joue un rôle central dans la formation et le renforcement des comportements addictifs. y compris dans le domaine de la sexualité. En fait, la dopamine est impliquée dans le système de récompense du cerveau, ce qui signifie qu'elle est au cœur des processus qui régulent la motivation à rechercher des plaisirs ou des gratifications immédiates. Lorsqu'il s'agit de comportements sexuels, la dopamine est libérée lors de l'anticipation du plaisir ou même pendant l'acte sexuel lui-même, renforçant ainsi l'envie de répéter ces comportements. Ça peut devenir problématique dans certaines circonstances, notamment lorsqu'une personne développe une dépendance au sexe. Alors, dans les relations à long terme, les niveaux de dopamine, ils évoluent naturellement, et cette évolution, elle peut avoir des répercussions significatives sur la dynamique sexuelle entre les partenaires. La dopamine, en tant que neurotransmetteur clé du système de récompense, elle joue un rôle essentiel en fait dans le désir, l'excitation et même la recherche de plaisir. Et ces aspects, ils sont étroitement liés à la satisfaction sexuelle dans une relation. Par contre, au fil du temps, les niveaux de dopamine, ils peuvent fluctuer, influencés par des facteurs émotionnels, hormonaux ou contextuels.
Dans votre cadre médical qui utilise l'émotique, est-ce que c'est suffisant ou il faut d'autres accompagnements? Si oui, lesquels?
Alors, effectivement, la notion de dopamine est fondamentale. Cependant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on fait varier la diffusion de la dopamine. Il faut bien mesurer que la dopamine va être diffusée dans votre cerveau en fonction principalement de la valorisation du comportement ou de l'action que vous êtes en train de faire.
Donc c'est pratiquement impossible de supprimer la dopamine.
Bien sûr, il ne s'agit pas non pas de la supprimer, mais d'apprendre à se la diffuser quand on en a envie et pour des comportements qui nous correspondent. Et en fait, c'est ça le but de l'accompagnement et du changement qu'on propose.
Donc vous essayez de chercher les comportements précis qui correspondent aux personnes.
Alors, pas du tout. Nous, en fait, on apprend aux personnes à évoluer. C'est-à-dire que en émotique, on considère que un comportement ne peut pas s'enlever. Dans l'inconscient, on ne peut rien enlever, on ne peut rien jeter, ça n'existe pas. La seule fonction de votre cerveau utilisable pour changer, c'est apprendre. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les gens à développer un nouveau fonctionnement dans lequel ils apprennent à vivre de la dopamine, mais pour quelque chose qui est adapté à leur vie. Et ça, c'est eux qui le décident, c'est eux qui le choisissent, c'est eux qui le sentent au fur et à mesure des séances.
Justement, nous avons un cas concret avec Anthony Bousquet, qui est addict au casino en ligne depuis plus de 5 ans. Il s'est confié au micro de Lenny Amen pour que l'on comprenne son addiction et avec pour but de sensibiliser le grand public.
Anthony Bousquet, 28 ans, habite à Toulouse depuis 2 ans et il travaille dans le commerce. Il est aujourd'hui addict depuis plus de 5 ans et fait partie des millions de joueurs à jouer au casino en ligne de façon illégale. Tout débute lors du premier confinement en 2021 avec son meilleur ami qui lui propose de jouer au casino. Des apéros virtuels sont mis en place et l'engrenage s'ensuit.
J'ai toujours aimé un petit peu jouer avec le feu, jouer avec mon argent, je suis très dépensier. Là, pas du gain. En fait, tu commences à mettre des petites sommes, puis tu t'inscris sur un casino. Tu reçois 10 pubs de casino par SMS et par mail. Et après, je me suis mis à regarder des streamers casino. Donc là, tu vois, bon, ils jouent avec d'autres sommes, bien sûr. Hein. Ce n'est pas les mêmes mises que moi, mais c'est comme ça que l'engrenage, en fait, a commencé, tout simplement.
La dépendance au jeu submerge Anthony. Aucune porte de sortie ne s'offre à lui. Sa tentation au jeu d'argent est perpétuelle, surtout après des gains excessifs remportés. Seulement, il va chercher à accroître ses gains et potentiellement plonger dans une spirale négative. Le plaisir du jeu va ensuite disparaître et devenir de l'addiction.
Faut que je passe le cap, ça fait 5 ans. En 5 ans, j'ai dû peut-être gagner 200 000 euros, mais j'ai dû en perdre 3 ou 400 000. Quand par mois, tu te dis une bêtise, moi je touche entre 2 000 et 2 500 par mois, j'ai pas honte de le dire. Quand je vais poser genre 500 euros sur un mois, que je vais en prendre 3 000, le truc c'est que ces 3 000, je vais les rejouer constamment, parce que tu essayes toujours d'aller chercher plus, plus, plus. Donc sur un mois, des fois, ça m'arrive de faire 20 000 euros d'entrée et de sortie par mois, ce qui est c'est n'importe quoi.
Même si la question du budget est très importante chez les addicts, Anthony, lui, a toujours voulu dépenser son propre salaire plutôt que d'emprunter.
Je me suis toujours mis des limites, c'est-à-dire que j'ai jamais emprunté d'argent pour jouer, mais par contre, j'ai mis des 10 000 euros de côté. Un mois après, j'avais plus rien, je retombe à zéro. Là, pour te donner un exemple, le mois dernier, il me restait 2 000 balles de côté, je fais un apéro avec mes collègues, tout le monde va se coucher. 3 h du matin, je suis sorti sur mon téléphone en train de faire ce qu'on appelle des spins, du coup, au casino. J'ai perdu 1 500 balles en 2 heures, je crois.
L'addiction touche souvent les plus jeunes. Anthony souhaite sensibiliser les jeunes, comme les plus grands, à ne pas se lancer là-dedans.
Pas faire comme les streamers qui se disent jouer avec ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est pas moyen de gagner de l'argent, jouez pas du tout. Vous jouez une fois, vous mettez 50 euros, vous gagnez 1000, arrêtez, ne reposez plus jamais d'argent. Et si vous vous mettez à jouer, ce qui est un malheur, il ne faut jamais penser à regagner ses pertes. C'est clairement ce qu'on fait tous. Tu vas mettre 100. Ah putain, fais chier, j'ai perdu 100. Ben, je vais mettre 200, comme ça je vais rattraper ces 100. Ah ben je les repère, ben, je vais mettre 400, etc., etc. J'ai des collègues qui jouent, ils disent je mets 100 euros par mois, et basta, s'ils perdent les 100, ils arrêtent là. Mais c'est ça, je respecte les gens qui arrivent à faire ça. Il ne faut surtout pas s'y mettre dedans, c'est vraiment un fléau.
Plus de 3,6 millions de Français ont été recensés en 2023 comme addicts au casino en ligne, selon l'Observatoire des Jeux. Le témoignage d'Anthony montre l'envers du décor et son expérience personnelle. La sensibilisation est un moyen de se rendre compte que cette addiction peut être de même ampleur que la drogue, le sexe ou encore l'alcool.
Dans cette interview, Olivier, nous avons un exemple concret. Comment, avec vos méthodes, vous aidez les personnes victimes de cette addiction en particulier ? On a parlé des addictions au sexe, mais pas des addictions au jeu d'argent. Est-ce que les méthodes changent ?
Alors, la méthode, en tout cas le fondement théorique, il reste le même. Ce qui est intéressant, c'est de constater la spécificité du jeu. Et donc, le jeu, il dit plusieurs fois, Anthony dit plusieurs fois, ne commencez pas. Et il a raison, parce qu'effectivement, si par exemple, un individu souhaite apprendre le piano et qu'il se met à jouer du piano, eh bien, s'il en joue tous les jours, il va vouloir jouer toujours plus de notes, plus vite, des partitions plus élaborées, plus de rythmes différents. Et donc, on remarque que là, c'est une évolution qui va l'amener peut-être vers beaucoup plus de satisfaction, puisque aller vers plus va développer et amplifier sa compétence. Et notre cerveau a toujours l'intention d'apprendre, de progresser, et donc de créer de l'équilibre. Et on entend bien la notion d'équilibre. Il dit, quand tu perds, eh bien, la première chose que tu souhaites, c'est te refaire. Et effectivement, notre cerveau va enregistrer la perte comme étant quelque chose qui doit être résolu. Et ça va être principalement motivé par ce qu'on appelle l'espoir. C'est-à-dire qu'on sort d'une lucidité qui devrait être statistique, puisque effectivement, les jeux d'argent sont destinés quasiment statistiquement à faire perdre, puisque c'est les sociétés de casino qui sont censées gagner le pactole. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va perdre notre lucidité. On va la laisser au profit d'un espoir, celui de se refaire, et donc automatiquement, l'attrait pour recommencer se met en route. Comment on aide les gens ? Eh bien déjà, en les accompagnant à redevenir lucides. Et ça, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'on applique dans beaucoup de nos accompagnements. C'est apprendre à découvrir en quoi, justement, l'espoir est nocif. Pour l'instant, pour lui, c'est associé à quelque chose de positif.
Vous avez parlé de casino. C'est l'addiction d'Anthony. Est-ce que pour vous, les jeux d'argent manquent d'encadrement ? Est-ce que vous pensez que ces firmes-là devraient être modérées par l'État ?
Alors là, après, ça, c'est un autre discours. Ça, c'est une opinion politique. En tout cas, ce qu'on peut retenir, moi, ce que je retiens de ce que dit Anthony, et c'est certain, c'est que si vous vous mettez à faire du piano ou faire du foot, vous aurez probablement un rêve, celui de gagner, peut-être gagner une compétition, celui peut-être de faire un concert, et votre cerveau va vous aider, grâce à cette dopamine hein, dont on parle depuis le début, à prendre du plaisir et à trouver la joie d'apprendre et de progresser. Effectivement, dans les jeux en ligne, eh bien, la finalité n'est pas aussi satisfaisante que dans d'autres activités.
Pour revenir sur le cas d'addiction d'Anthony, il dit qu'il est addict, il en a conscience, mais il ne veut pas se faire soigner. C'est un cas qui est courant pour vous ou non ?
Alors oui, en fait, le fait d'être conscient de ses difficultés est extrêmement courant. Pour ne pas dire la quasi-totalité des patients sont parfaitement conscients de leurs difficultés. C'est pour ça que nous, on n'utilise pas le mot addict. On n'a pas d'intérêt en fait à analyser ou à quantifier leur addiction. Ce n'est pas fondamentalement intéressant pour nous. Ce qui n'est pas évident, c'est l'intention de changer. Et pour changer, il y a un prérequis, une condition sine qua non, qui est justement une des choses les moins évidentes à mettre en place dans notre accompagnement, c'est apprendre à y croire. Ce qui fait qu'une personne va consulter, c'est que déjà, elle commence à croire qu'il est peut-être légèrement possible pour elle de changer. Et ça, effectivement, nous, on ne peut pas le déclencher chez la personne. C'est-à-dire
ça vient directement de la personne en question.
Oui, il y a un moment où la personne va se dire, bon, peut-être que là, je peux faire quelque chose. Si elle est convaincue que c'est en dehors de son champ, c'est-à-dire qu'elle considère ça comme quelque chose sur qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne contrôle pas et sur lequel elle n'a absolument aucune influence, et je ne vois pas pourquoi elle se dirait « tiens, je peux le changer ». Et justement, notre travail, c'est d'inviter les gens à découvrir que, effectivement, il y a des mécanismes automatiques, on appelle ça l'inconscient, mais nous avons une influence sur ces mécanismes automatiques. Tout ce qu'on apprend, comme par exemple quand on apprend à lire et à associer les lettres E, A et U qui forment le phonème O, ça s'apprend. Et donc, même si ça n'est pas logique, ça s'intègre. Et notre cerveau, il est tout à fait disposé à intégrer de nouveaux mécanismes automatiques. Et c'est ça le changement.
On a parlé des proches tout à l'heure. Amandine Piquepé, qui a 21 ans, est la petite amie d'Anthony depuis plus de 2 ans et demi. Elle raconte comment elle l'aide au quotidien dans son addiction. Une interview réalisée par Lenny Amen.
L'addiction ne touche pas que l'alcool, la drogue ou le sexe. En effet, plus d'un million de Français sont touchés par les jeux d'argent selon l'Observatoire des jeux. C'est le cas du petit ami d'Amandine Piquepé, qui est addict depuis environ 5 ans.
Du coup, il m'a un peu expliqué l'argent qu'il pouvait mettre et tout ce qu'il pouvait mettre. J'ai mis en garde pour faire attention, mais ça fait déjà longtemps qu'il jouait, donc ça n'a pas servi à grand-chose dans l'immédiat. Quand il joue, je lui dis attention, n'en mets pas trop, mets ce que tu estimes être possible pour toi. Ne commence pas à mettre, je sais pas, 250 euros d'un coup. Commence par une petite somme et après, tu vois si ça vaut vraiment le coup d'en remettre. Et je pense que ça l'a un petit peu aidé à comprendre les risques. Mais jusqu'à encore la semaine dernière, il y a rejoué. C'est toute l'addiction, en fait.
Pour lutter contre l'addiction de son petit ami, elle met en place des solutions radicales.
Alors, ce qu'on a mis en place, surtout depuis environ 6 mois, c'est que j'ai accès à son compte bancaire. Et en fait, de temps en temps, je jette un petit coup d'œil, voir s'il y a une trop grosse dépense par rapport à 3-4 jours en arrière. Et je lui dis, ah, est-ce que tu as joué? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Enfin, le truc, c'est que ça fait un petit peu comme une tutelle par rapport à ça. Et je sais que ça l'aide un petit peu de lui dire, que je lui dise, ah, fais gaffe, tu as un peu trop dépensé. Est-ce que c'est par rapport au jeu? Il me dit toujours la vérité, donc il me dit oui. Donc je dis, bah, à partir de là, maintenant, tu te régules, tu fais vraiment gaffe à ce que tu fais. Ami, tu vas t'acheter un ticket à gratter si tu as vraiment ce besoin de jouer un peu d'argent. Et je pense que ça l'aide vraiment parce que depuis environ 6 mois, il joue moins. Mais là, le mois dernier, ça a été sa plus grosse crise, je pense, parce qu'il a envoyé quasiment l'entièreté de son salaire alors qu'on était vraiment le 15. Donc le mois dernier, ça a été vraiment très compliqué à gérer, ouais.
Malgré son aide omniprésente, l'addiction est une maladie croissante, notamment avec le développement des plateformes en ligne.
Avec ce que vous avez entendu dans cette interview, et avec une approche scientifique, comment aider au mieux quand on est à la place du proche?
La place du proche, c'est pas la meilleure place. Hein. Effectivement, c'est peut-être même la pire, je crois. En tout cas, s'il y a une chose qui va faciliter, c'est de changer notre perspective. On n'aide pas la personne à arrêter. C'est comme si là, je vous dis, je vous demande maintenant d'arrêter de penser à une banane. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, une banane s'affiche dans votre esprit. Si vous dites à la personne « arrête de jouer », vous restez focalisé sur ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qui va se passer, par exemple, avec un petit enfant avec qui vous êtes en train de jouer et qu'à un moment vous donnez, vous lui dites « bon, bah ça y est, j'ai plus envie de jouer, on arrête ». Et lui, en fait, quand vous lui dites « arrête », ça marche pas bien. Généralement, il continue, il veut continuer de jouer. Mais votre cerveau, il marche toujours sur le même principe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser la possibilité de lui proposer autre chose. Lui dire « viens maintenant, si tu veux, on peut s'asseoir et lire une histoire ». Et là, automatiquement, hop, ça se met en place. Et donc, effectivement, il est nécessaire que Anthony, surtout, trouve une autre façon de vivre. C'est-à-dire toujours la dopamine. Mais sur autre chose. Et il ne s'agit pas juste de s'imaginer qu'il va boire un verre d'eau chaque fois qu'il va avoir envie de jouer. Non, quelque chose qui le maintient, qui lui donne envie, qui le motive. Ça peut être un but professionnel, sentimental, de loisir, qu'importe.
Transférer l'addiction sur quelque chose de plus sain.
C'est pas forcément immédiatement transféré, mais en tout cas, c'est s'interroger sur qu'est-ce qui est adapté pour moi. Et au départ, souvent, quand les gens viennent et qu'on les accompagne, ça commence par des choses toutes simples. Des fois, les gens nous disent « ouais, c'est curieux, ce matin, à la place de jouer, j'ai pris un bon petit déjeuner. Et d'habitude, je ne mange pas le matin. Mais en fait, je trouvais ça super bien de manger le matin. » Et puis après, quelques jours plus tard, ils nous disent « d'habitude, dans la fin de soirée, je joue. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte que j'étais fatigué. Et en fait, je vais dormir, quoi. » Et en fait, tout simplement, les gens vivent un autre intérêt pour leur vie.
Donc, les proches sont autant concernés que les addicts. Est-ce que vous mettez des séances en place pour ces personnes-là?
Alors effectivement, là, nous, on ne peut pas proposer ça parce que je suppose que ça ne va pas être facile pour les proches de vouloir payer des séances. Et puis, ça semble un peu curieux. Par contre, effectivement, ça nous arrive de recevoir les proches, par exemple, des personnes qui vivent des longues maladies. Mais pour l'instant, on n'aide pas les proches, c'est sûr. Mais si un jour, on réussit à bien aider toutes les personnes à changer, bon, bah, ça profitera aux proches de toute façon.
Évidemment. Près de 6% de la population en France est addict aux jeux d'argent, à Internet ou au sexe. Pourtant, dans les médias, très peu en parlent. Se pose alors la question du tabou, une interview de Léna Borance.
En France, 10% des 14-24 ans regardent du porno chaque jour, créant ainsi une addiction. Dans notre société, la dépendance est un sujet tabou. La dépendance fait peur et pousse à de fausses croyances. Ces a priori évoluent dans le temps. De nos jours, les jeux d'argent, la pornographie, la crypto-monnaie et la scarification, des sujets peu traités. Témoignage de Déborah Descamaré, psychologue clinicienne.
Enfin, le tabou, c'est un mot intéressant. Parce que le tabou, c'est quelque chose à la fois sacré et impur. Et donc, il y a parfois cette recherche d'une sorte de raccourci de la spiritualité par les hallucinogènes ou autre chose, être dans un état secondaire, la sexualité et d'autres. Mais en même temps, c'est un interdit religieux, social, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des conséquences.
D'après elle, souvent des jeunes viennent eux-mêmes parler. Le but, libérer la parole et se confier sans le risque d'être exposé.
C'est-à-dire sortir de secret. Parce que le tabou aussi, c'est sacré, ça veut dire quelque part secret. Donc de pouvoir se sentir libre d'en parler et créer un plan de structure, de créer ses propres tabous. Il faut vraiment établir une relation, une alliance thérapeutique très forte pour pouvoir en parler, pour pouvoir arrêter. Et dans le secret professionnel, sauf que parfois, il faut admettre les faits, voilà. Mais avec la possibilité de ne pas être emprisonné. Et puis, il y a aussi le côté, on ne va pas dire à tout le monde, c'est important d'en parler, mais on ne peut pas le dire à tout le monde.
Les tabous évoluent en fonction des époques et des cultures.
Je vois grimacer, Olivier. Quel est votre avis sur cette interview ?
En fait, je crois qu'une des bonnes façons de déstructurer un tabou, c'est surtout d'inviter les personnes à comprendre comment ils en sont arrivés là. Comment on arrive à se scarifier, comment on en arrive à jouer, etc. Comment on en arrive à regarder du porno tous les jours. Et de remarquer qu'en fait, le fonctionnement du cerveau est identique pour des tas et des tas d'activités. On en arrive toujours à comprendre que, en émotique, on dit l'inconscient t'éloigne de la douleur et te rapproche du plaisir. Et ça, globalement, c'est fondamental à découvrir parce que lorsqu'une personne se scarifie, la personne qui observe, elle se dit « Waouh, ça fait mal !» Celle qui est en train de le faire, elle fait « Ah, ça me fait du bien !» Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Tant qu'on ne permettra pas aux gens de comprendre que celle qui observe émet simplement un jugement et une projection, et celle qui ressent, elle, à associer un comportement à la fameuse dopamine, eh bien, on ne permettra pas aux gens de comprendre que c'est tout à fait naturel. Quand un gars fait de la muscu, eh bien, si le gars il veut prendre de la masse, à un moment donné, il sait qu'il va falloir que ça fasse un peu mal. Donc, en fait, il est content quand ça fait un peu mal. Et là, on ne parle pas d'addiction. On ne dit pas « Oh là là, mon Dieu, t'es addict à la douleur ». Non, il n'est pas addict à la douleur. Il est simplement content et il valorise le fait que quand ça fait mal, ça veut dire qu'il va avoir des muscles plus gros. Eh bien, quand la personne se scarifie, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, globalement, alors je le dis, ce n'est pas le cas pour toutes les personnes qui le font, mais c'est pour se représenter l'idée. C'est « Ah, j'ai mal à l'intérieur ». Ah, si je me fais mal physiquement, c'est comme si la douleur que j'ai, la douleur émotionnelle principalement, à l'intérieur, ben je la vis physiquement. Et ça fait principalement comme une sorte de soulagement. Et donc, c'est ça qu'elle recherche, le soulagement. Et donc, à partir du moment où on indiquera et on expliquera ça de manière positive, les gens diront « Ah, ben ouais, vous me comprenez. Ah, ben du coup, je veux bien en parler. » Et c'est surtout ça qui fait que ça devient tabou, parce qu'on juge.
On va revenir sur le sujet du sexe. Julie Sanchez, 25 ans, consultante en ressources humaines, addict au sexe depuis plusieurs années. C'est un comportement difficile à contrôler qui peut bouleverser la vie de ceux qui en souffrent. Julie explique comment elle s'en sort peu à peu. Une interview de Léona Bonneau.
L'addiction au sexe, un trouble compulsif qui se présente sous plusieurs formes. Masturbation quotidienne, multiplication des rapports sexuels et partenaires, séduction compulsive et utilisation de porno ou messagerie sur le web. Nous allons entendre Julie, addict au sexe, qui slalome entre guérison et acceptation.
Déjà, mon rapport au plaisir, qui a toujours été très fort et ancré en moi, comme par exemple regarder du porno, j'ai commencé super jeune, ma puberté a tourné autour de ça, mais je mettais ça sur le compte des hormones.
Grâce à un entourage bienveillant et une mère addictologue, Julie accepte son addiction et la thérapie qui s'ensuit.
En fait, dans ma famille, on en parle vachement, on est un peu libérés sur ça. Et ma mère, elle est en fait addictologue, mais pour toute addiction confondue. Et en fait, en lui en parlant, c'est comme ça qu'elle m'a fait prendre conscience que c'était pas juste de l'attirance au niveau du sexe, mais plus une addiction et que ça commençait à être un réel problème, quoi. Et comme elle est souvent confrontée justement à ce genre de cas, je sais que dès que j'ai un souci par rapport à ça, je me sens pas bien, je peux l'appeler, lui en parler, et ça me fait ma petite thérapie, quoi. C'est comme ça que j'ai réussi à sortir un peu de tout ça.
Avec le soutien constant de son entourage, Julie a réussi à se reconstruire progressivement.
On parlait des proches tout à l'heure dans le domaine des jeux d'argent. Là, on va parler dans le domaine du sexe. Souvent, la première réaction de ces personnes concernées, c'est d'aller solliciter son entourage, à défaut d'aller consulter un ou une spécialiste. Votre explication, c'est laquelle ? C'est peut-être plus simple d'aller parler à un proche que d'aller voir quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine ?
C'est pas évident, parce que il y a des gens qui sont venus me consulter. Et au bout de une ou deux séances, me disent « Mais vous savez quoi, ce que vous me dites, en fait, et ce que je comprends surtout aujourd'hui, parce que j'en prends conscience, parce qu'en réalité, moi, je leur dis pas grand-chose, ils me disent « Ce dont je prends conscience, c'est que ma femme m'avait dit exactement ça il y a déjà plusieurs semaines. » Et en fait, quand un proche vous dit quelque chose, vous n'entendez son message que si déjà vous êtes prêt à l'entendre. Et donc, c'est ça qui n'est pas évident, c'est-à-dire que c'est un peu pareil avec un thérapeute. Parfois les thérapeutes vont exprimer des choses, parfois la parole va vous libérer un petit peu, mais ce qui va déclencher vraiment à mon sens le changement, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est pas comprendre intellectuellement, ça n'a rien à voir. C'est comme un enfant par exemple qui est dans la piscine et qui apprend à nager, lui expliquer que parce qu'il a des poumons qui sont remplis d'air et que d'après la densité de son corps, son corps va avoir une tendance à flotter, il peut le comprendre intellectuellement, c'est pas pour ça qu'il va vous croire. L'idée simplement, c'est de l'expérimenter, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à expérimenter, à ressentir, pour découvrir en fait comment fonctionner autrement par rapport à la sexualité. Et un jour, en force de découvrir qu'en fait la sexualité, c'est surtout dans la tête principalement, une fois qu'on découvre qu'est-ce que c'est les pensées, qu'est-ce que sont les idées, qu'est-ce que sont les fantasmes, comment s'articule l'imagination, les rêves, tous ces mécaniques dans le cerveau, une fois qu'on apprend à jouer avec, on se rend compte qu'en fait, on a la main dessus. Et une fois qu'on reprend la main sur ce qui se passe dans notre tête, on reprend la main sur nos comportements.
Est-ce que vous avez un dernier message à donner à ces personnes en situation d'addiction qui engendrent les mêmes problèmes qu'on a entendus dans cette émission ?
Alors oui, le message fondamental, c'est qu'il est possible de changer. J'ai accompagné des milliers de personnes à changer sur des tas de sujets très différents, notamment ces sujets-là. Changer n'est pas complètement facile, hein, faut pas exagérer, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais ça peut se faire en quelques séances, à partir du moment où l'on utilise le potentiel du cerveau d'apprendre un nouveau fonctionnement. C'est pour ça que nous, en émotique, on n'utilise jamais ni les mots dépendance, ni addiction, mais on est vraiment focalisé sur la possibilité que le cerveau a de développer un équilibre, de développer une nouvelle façon de fonctionner, de développer une nouvelle façon de comprendre la vie et de se la représenter. Et ça a tout de suite un effet sur les comportements.
Je vous remercie, Olivier. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous.
Et je vous en prie.
Pour les personnes dans le besoin ou qui ne peuvent pas se déplacer, voir un spécialiste, Drogue Info Service vous accueille avec bienveillance et sans jugement par téléphone 7 jours sur 7 de 8h à 2h au numéro anonyme et gratuit qui est le 0800 23 13 13. 0800 23 13 13. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Lenny Amen pour la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle émission. Au revoir, bonne journée à tous.